Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les gars, vous allez jamais me croire, mais ce week-end j'étais au tournoi de foot amateur que j'organise, un tournoi de sixte en Bretagne. Je discute avec pas mal de joueurs des différentes équipes et puis on a la buvette et là il y a un des gars très sympathique, Erwan, avec qui je discute. Et je lui demande un peu ce qu'il fait et il me dit qu'il travaille à l'Agence française de lutte contre le dopage. Je lui demande si c'est pas trop touchy et si on peut l'inviter sur le podcast. Et il me dit que normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, surtout qu'il suit en plus le foot. C'est le coordinateur qui s'occupe de choisir les joueurs qui vont subir un test antidopage. Et du coup, si ça vous botte le sujet, je peux écrire un mail à l'attaché de presse. Et voilà, aussi simple que ça. Tenez-moi au courant.
Ouais, top. Non mais carrément. Bah, si jamais tu peux avoir sa confirmation, c'est top parce qu'il y a pas mal de questions que j'aimerais lui poser et puis peut-être qu'il va nous apprendre des choses, certainement d'ailleurs.
Eh ben super. Écoute, j'ai envoyé le mail à la FLD. Ils viennent de me répondre. Il n'y a pas de souci pour eux. Du coup, ils vont venir à deux. Il va y avoir Erwan et Rémi qui est son boss. Et du coup, on va pouvoir leur poser toutes les questions qu'on veut. Donc je te donne rendez-vous mardi, Edouard, si ça te va, au studio. À toutes.
Alternative football. Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football. Alternative football.
Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchand.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alternative Football, le numéro 34. Et aujourd'hui, on reçoit Rémi Wallard.
Bonjour à tous.
Et Erwan Le Breton.
Un petit peu en avance, mais bonjour tout le monde.
Salut Erwan.
Vous êtes respectivement directeur adjoint et coordinateur du département des contrôles de la FLD et coordinateur antidopage pour toi, Erwan. Aujourd'hui, l'idée pour nous, même si Edouard est un peu mieux renseigné que moi, sur le dopage et le football, est-ce qu'il y a le thème en tout cas qui revenait chez nous, c'était aucun dopage dans le football, vraiment, ou aussi peu de dopage dans le football, vraiment. Mais avant de s'attaquer à cette question-là, on va d'abord vous poser la première question, à savoir, qu'est-ce que la FLD, quelle est sa mission principale?
Vous avez... Je me lance, Erwan. Alors, c'est une autorité publique indépendante depuis 2006. Donc, les missions principales de l'agence, c'est, comme le département de contrôle le stipule, c'est de monter des missions de contrôle sur l'ensemble des sports disciplines en France et aussi sur les sportifs français à l'étranger. Mais aussi, on a une mission d'enquête et renseignement. On a un département qui s'occupe du côté juridique de la chose, de l'antidopage. Et on a aussi un département éducation-prévention pour aider les sportifs et leur donner des outils pour mieux être accompagné et appréhender ce qu'est l'antidopage.
Et vous êtes basé où ?
Rue Aubert à Paris.
Rue Aubert, c'est quoi ? C'est le 9 ça ?
C'est le 9e, ouais, tout à fait.
C'est pas mal.
Ouais, très beau quartier.
On manque un peu de douche pour faire du sport le midi, mais
ça
franchement
arrive.
Ça arrive.
Le message est passé. Et du coup, juste pour mieux vous connaître, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé à la FLD ?
Alors moi personnellement ça fait presque 8 ans, j'étais athlète de haut niveau dans les années 2000, je faisais du 400 mètres, j'étais en équipe de France d'athlétisme et je salue d'ailleurs mes anciens collègues de l'équipe de France d'athlétisme. Puis après j'étais policier, brigade des stupéfiants à Paris et donc les deux, mes deux anciennes vies entre guillemets se regroupaient, voilà exactement. Et depuis 2016 je suis à l'agence, j'ai occupé pas mal de fonctions jusqu'à aujourd'hui directeur adjoint du département des contrôles.
Et moi, je suis arrivé il y a 2 ans à peu près. J'ai réussi à rentrer à l'agence plus sur une mission de développement, d'éducation, de prévention, justement, qu'on avait.
Alors, éducation, de prévention.
Donc, le but, en fait, c'est voilà. que moi, j'étais sur la création d'un fonds de dotation qui existe aujourd'hui et qui, en fait, visait à faire de l'éducation et de la prévention sur la lutte contre le dopage sur des publics non cibles prioritaires de l'agence. C'est-à-dire que nous, évidemment, les premiers auxquels on parle, c'est les sportifs de très haut niveau, les sportifs ouais. professionnels et leurs encadrements, parce que ça, moi, je pense qu'on y viendra au fur et à mesure de la conversation, mais ça a une vraie importance. Et donc, avec ce fonds de dotation, la volonté, c'était d'aller possiblement vers des publics scolaires, ah vers oui. des publics de clubs amateurs enfants, parce que, on le sait, aujourd'hui, le sport est attractif et devient attractif très tôt. Il y a des enfants de 11, 12, 13 ans qui sont déjà dans le système sur certains trucs. Ils peuvent même être champion olympique de skateboard maintenant. Donc, c'est que vraiment, tout est possible. Et du coup, donc, ce fonds de dotation qui s'est lancé vise à faire ça. Et donc, j'ai fait ça pendant un an à peu près. Et puis, bah, j'ai changé beaucoup avec le département des contrôles, puisque on a une certaine veine sport en commun sur à peu près tous les sports. Et donc, en mars, 2023, je suis devenu coordonnateur antidopage, notamment en charge du football en France.
Et dans quelle mesure la connaissance du milieu du foot ou du milieu du sport a une importance pour votre mission ?
Bah, moi, par exemple, pour le foot, aujourd'hui, je m'adapte aussi à notre monde, c'est que j'utilise beaucoup de data. Beaucoup de data en open source et pratiquant moi-même, je sais à peu près quels sont les facteurs qui sont intéressants pour un joueur. Ça va être le nombre de courses à haute intensité, ça va être la distance parcourue dans un match, ça va être l'enchaînement des matchs. Mmh. Il suffit d'avoir joué une fois au foot dans sa vie 90 minutes pour se rendre compte qu'on peut pas enchaîner avec 90 minutes si on l'a joué vraiment sérieusement. Donc on a des facteurs qui sont assez quantitatifs, qui sont assez accessibles, qui vont être voilà cet enchaînement des matchs, cette intensité, le poste, et qui vont nous solliciter notre connaissance de la lutte contre le dopage, de savoir quel type de produit pourrait être plus à risque sur tel ou tel type de joueur. Et après on a des facteurs non quantitatifs qui sont le fait de connaître un peu le monde du foot, c'est de dire à quel moment de la carrière tel ou tel joueur en est, qu'est-ce qu'il enchaîne, est-ce qu'il y a des pathologies, plusieurs fois de blessures qui sont revenues, est-ce que c'est un moment clé de l'année, est-ce que c'est un jeune qui monte, est-ce que c'est un ancien qui est en fin de contrat. Et donc, on essaye presque de tourner ça en psychologie du sport aussi par moment et d'essayer de vraiment comprendre, de se mettre à la place d'eux et de faire en sorte que ce soit fait le plus efficacement possible, puisque sinon, en fait, on pourrait ne pas s'embêter. On prend quoi ? On prend le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur gardien, et on s'arrête là. Et nous, notre but, c'est de voir au plus large et de se dire, voilà, il faut que tous les publics soient ciblés dans le football.
Qu'est-ce que ça t'inspire quand t'entends ça, toi ? Est-ce que t'avais l'impression, quand t'étais joueur, ou je sais pas combien t'as fait de tests antidopage, t'en as fait beaucoup, pas beaucoup, est-ce que c'est le même pour les joueurs ou pas? Est-ce que chaque joueur, ou finalement, chaque joueur aura le même nombre à la fin de sa carrière de tests antidopage, ou il y a un ciblage?
Tu sais qu'à l'époque, en championnat, j'ai jamais été contrôlé, c'est surtout en Champions League. Champions League, tu vois, c'est pour ça que j'allais vous poser cette question, est-ce que vous voyez pourquoi il y a une telle disparité, une telle différence entre les championnats? Et surtout la Champions League, qui est la compétition reine, là, il y avait très souvent des contrôles antidopage.
Alors, une réponse simple. À ton époque, je pense que, encore une fois, la lutte antidopage, même si t'es pas très vieux. Mais
non, fais attention, non. Parce que là, t'allais dire, écoute, les poteaux étaient carrés, et du coup, le gardien pouvait prendre le ballon à la main. Mais...
Non, mais je pense que en temps, l'antidopage, c'est quand même très récent. Et quand on parle des débuts des années 2000 ou milieu des années 2000, c'est presque l'âge de pierre pour l'antidopage.
Okay, okay.
Donc c'est dans ce sens-là, t'es pas vieux, il n'y a pas de problème. T'es encore bien fit, il n'y a aucun souci. Mais par contre, non, nous, je sais que la Ligue des Champions, effectivement, on collabore de manière complètement transparente avec l'UEFA. On sait qu'il y a un gros programme de tests conduit par l'UEFA. Et nous, en France, on va parler de la FLD, la stratégie globale de l'agence a fait que depuis quelques années, voire 5-6 ans, la stratégie, c'est vraiment le très haut niveau. Et donc, le nombre de tests, y compris dans le football, a complètement augmenté sur les matchs de Ligue 1, Ligue 2 ou le hors compétition. On peut aller les voir à l'entraînement, même à domicile si on veut.
Au foot ?
En tout temps, oui, okay. Complètement. C'est dans le code du sport. On aurait complètement le droit de le faire.
Mais vous ne le faites pas beaucoup ?
On le fait pas beaucoup en football parce que
ça coûte, on nous a dit.
Non, ça coûte, non, c'est pas que ça coûte, c'est que on n'y voit pas un intérêt énorme parce que les clubs, encore une fois, et je les remercie à travers ce podcast, on a encore vu la Ligue de football, la LFP, pardon, il y a 10 jours et ils collaborent très, très bien. On peut mettre nos tests comme on veut, parce que la collaboration elle est entière, elle est constante et les clubs travaillent bien avec nous, donc ça a souligné quand même. Et puis après, non, le nombre de tests, il peut varier selon les joueurs, comme l'a expliqué Erwan, selon le poste de jeu, selon la dépense énergétique, selon la performance, selon d'où on vient, où on veut aller. Il y a plein de facteurs comme ça qui nous, on a des ressources, certes limitées, mais on a des ressources à dépenser. C'est de l'argent public, donc on veut la dépenser de manière intelligente. Efficient, et donc on a des choix à faire. Et ces choix, ça va être à, par exemple, à M. Cissé, autant de tests, à M. Le Breton, autant de tests, avec telle analyse spécialisée, etc., etc., selon l'année, selon le poste de jeu, selon les enjeux, etc., etc.
Quand vous voyez mes stats, lui n'est pas dopé. C'est pour ça.
Mieux terrain défensif, normalement.
Bon, pour lui, non, on a vu les stats. Non, il faudrait quand même un petit peu lui injecter 2-3 trucs.
Mais du coup, on peut comprendre qu'un gardien de but sera, par exemple, moins ciblé qu'un milieu de terrain.
Bah, alors, sur le principe, il ne fait pas partie du public prioritaire. Maintenant, les faits sont qu'il y a une énorme concurrence chez les gardiens aussi.
Il n'y en a
qu'un seul qui joue. Mmh. Et en fait, là, on va aussi arriver du coup, sur ces facteurs plus psychologiques, plus d'analyse de la performance, et de se dire bah, voilà, qu'un gardien titulaire qui vient de s'exploser la clavicule et qui veut revenir au plus vite parce qu'il veut retrouver sa place en club, il veut retrouver sa place en sélection, etc. Et ben, en fait, nous, c'est des trucs qu'on va observer. Maintenant, franchement, moi, je suis en train de réfléchir sur mes ciblages des 6-7 derniers mois. Honnêtement, j'ai fait pas mal de gardiens. Après, on essaie aussi de les faire à des moments stratégiques, mais ça reste... Tout le monde y passe.
Donc ça, c'est un joueur, éventuellement un gardien blessé qui voudrait revenir plus tôt. Mais est-ce que, et tout à l'heure, tu as posé une question très bonne.
Merci.
Au Dej, d'ailleurs, c'est là, ça m'a surpris d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'un gardien, il pourrait. C'est quoi les produits que pourrait utiliser un gardien pour être beaucoup plus focus?
C'est un sport de force, c'est de la force élastique, si je ne me trompe pas. Un gardien, il faut être dynamique, il faut être tonique, donc on pourrait complètement être sur des produits type anabolisants, stéroïdes, parce qu'il faut de la force, il faut de l'explosivité.
Et pour la concentration, tu sais, non?
Ouais, des bêta-bloquants.
Des stimulants,
bêta-bloquants, je ne pense pas, parce que tu vas être endormi pendant le match, mais des stimulants, pourquoi pas, ouais. Un stimulant, ça peut justement stimuler le gardien pour avoir une... pour être plus aux aguets, entre guillemets. Maintenant, les stéroïdes, ça me paraît être le produit a priori. Si je m'en réfère à mes petites connaissances en football et sur le poste de gardien de but, ça reste de la force. Hein, je pense qu'il passe beaucoup de temps en muscu, etc. Donc, ça serait ça.
Vous fournissez toujours la liste des produits dopants où il y a des produits dopants à tous les clubs?
Alors,
et est-ce que c'est toujours les mêmes dans tous les championnats?
Alors, c'est...
Il y a deux questions dans celle-là.
L'Agence mondiale antidopage, tous les ans, il y a une liste des produits interdits qui est pour la même pour tout le monde. Donc, okay. Elle est revue chaque année. Et ensuite... Nous, sur le site de la FLD, on a un moteur de recherche qui permet très vite de savoir si tel produit, tel médicament peut potentiellement être utilisé ou pas. Et ça nous dit si c'est sur la liste des produits interdits.
Sur le foot, si c'est pas trop inscrit, vous êtes combien à vous occuper du foot?
Je suis tout seul sur le foot. Maintenant, comme l'a dit Rémi, on est un open space où en fait on est tous les coordonnateurs ensemble. Et honnêtement, pour quelqu'un qui n'aimerait pas le sport, je pense que nos journées sont littéralement infernales. Parce qu'on passe de l'analyse du marathon du week-end à résultat de Ligue 2. Après, on passe en effet sur du tir à l'arc s'il faut. En fait, on passe notre journée à se nourrir de sport. Et du coup, moi, c'est apparu assez vite avec eux. Moi, j'en apprends tous les jours sur plein de sports, donc c'est génial, parce qu'en plus, tout le monde monte. Maintenant, en effet, il est assez vite apparu au travers du foot que moi, j'y passe un temps dingue à regarder des matchs de beaucoup de niveaux, à lire beaucoup d'articles avec des jeunes qui arrivent, avec des mecs de championnats étrangers, voire exotiques, qui peuvent à un moment attirer l'œil. Et donc, ça me permet d'éviter d'être surpris et d'être en réaction au moment où je fais notamment mes ciblages et dire, OK, là, dans cet effectif, je sais déjà qu'il y a une partie qui m'intéresse parce que je les ai étudiés avant.
Depuis tout à l'heure, vous parlez de renseignements qui sont des renseignements de open source data, par exemple, qui sont des articles de presse. Est-ce qu'il y a des renseignements qui sont par des gens à l'intérieur que vous connaissez, qui sont des informateurs, un peu comme dans l'espionnage? Peut-être que vous ne pouvez pas en parler, mais est-ce qu'il y a aussi toute l'information, tous ces gens qui sont... toute l'information un peu par le réseau, quoi, qui se fait...
Oui, clairement. On peut en parler. Sans eux, on serait...
Des non, mais... anonymes.
Non, mais sans eux, on serait un peu plus en difficulté, il faut le dire. On a un département enquête et renseignement à l'agence qui est normalement moteur pour avoir ce genre de renseignement. Et puis, moi, je vais parler de mon cas. Hein, j'ai fréquenté pas mal de sportifs de haut niveau pendant ma carrière. Et évidemment que ça me sert aujourd'hui. J'ai gardé contact avec pas mal quand même, et ça me sert tous les jours pour justement alimenter, entretenir, agrandir ce fameux réseau. Et ça déborde sur pas mal de disciplines. Et je voudrais souligner aussi que nos partenaires privilégiés, c'est aussi les fédérations. Encore une fois, dans l'imaginaire des gens, l'antidopage, la FLD, on est des vieux de 60 ans qui aiment pas le sport et qui on veut casser du sportif. Pas du tout. Nous, on aime le sport, on aime les sportifs. Et on veut même les protéger. Et donc, grâce aux fédérations, grâce aux ligues, c'est comme ça qu'on avance, qu'on progresse et que, pour le coup, on va protéger, comme le dit Erwan, le sportif propre par rapport à un sportif qui va potentiellement passer la ligne rouge, tout simplement.
Et je dirais même que, en plus de ça, comme on est des réels amoureux de sport, nous, c'est pareil, on entend beaucoup de fois des sports qui sont évoqués et tout de suite, la réaction des gens, c'est « oui, mais ça va être floué, bon, soit par la corruption, soit par le dopage, de dire « non, mais ça n'a aucun intérêt à être regardé ». Nous, ce qu'on veut, c'est que nos disciplines, on continue aussi de les regarder avec plaisir et de s'informer avec plaisir parce qu'on sait le travail qui est fait derrière. Alors, par nous, mais en général, nous, moi, ça m'embêterait beaucoup que le foot, qui est ma passion, il y a des gens qui disent « non, mais en fait, ça sert à rien de regarder le foot parce que y a des mecs surchargés qui, en fait, gagnent chaque année ». Et du coup, nous, on a aussi cette volonté-là, c'est de faire en sorte que le sport reste quelque chose que les gens aiment, quitte à ce qu'ils soient déçus de voir qu'en effet, non, on n'est pas des chasseurs de tête et on le fait pour des bonnes raisons et parce qu'on aime ça. Et en fait, de dire, non, nous, on n'a pas un tableau de chasse avec écrit qui on a envie d'avoir ou qui on a eu. On n'a pas de prime quand il y a un positif. Mais par contre, on sait que c'est des rappels à l'ordre et que notre but, à chaque fois, il est là, c'est d'aller dans la dissuasion. On n'est pas dans la précision et dans la prédation, on est vraiment dans la dissuasion.
Vous avez conscience quand même qu'il y a des sports qui interrogent. Enfin, moi, je viens du Sud-Ouest et c'est vrai qu'il y a le vélo, le Tour de France, c'était quand même assez impressionnant. Enfin, impressionnant à voir et à la vitesse à laquelle ils arrivaient, faisaient un sprint alors qu'ils s'étaient tapé une 3 ou 4 cols. C'est assez impressionnant, surtout pendant 3 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Nous, on est dans la gestion du risque. Évidemment qu'il y a des disciplines beaucoup plus risquées que d'autres. Le vélo, c'est pratiquement tout en haut. Donc, on est conscient de tout ça. On est conscient que certaines performances puissent interroger le grand public, ça c'est une certitude. Après, ce qu'on peut dire, c'est que nous, déjà au niveau de la FLD, notre coordonnateur antidopage qui est en charge du cyclisme sur route, sans leur manquer de respect aux cyclistes, il les loupe pas. Donc ça veut dire qu'en gros, ils sont très très testés. C'est presque le sport le plus testé au niveau mondial. Hein, si on regarde un petit peu ce que fait la cyclisme unit. Sur ces cyclistes, ils sont quand même assez testés, donc premier élément de réponse. Après, oui, on peut avoir des doutes sur certaines performances dans plein de disciplines. Maintenant, comme je te le disais en antenne, nous, notre but, c'est de trouver et de prouver que certaines disciplines ou certaines performances ne sont pas clean. Tant qu'on n'arrive pas à le prouver, on continue à essayer de le prouver, justement.
Et du coup, le football, si le cyclisme fait partie des sports les plus ciblés, qu'en est-il du football par rapport aux autres sports? Vous diriez que...
L'assiette de sportifs, elle est quand même assez conséquente. Des effectifs d'un club de Ligue 1 ou Ligue 2, c'est quoi? C'est 25 joueurs par équipe. Ouais, donc l'assiette de sportifs, elle est quand même assez conséquente. Donc nous, proportionnellement à justement ce nombre de sportifs, on conduit quand même pas mal de tests. Hein, sans trahir le secret, on est à plus de 1200 tests.
On était à 1500 en 2022, voilà. Et c'est le deuxième sport le plus testé. Okay. Volume de test.
Ouais. Donc c'est important de le dire, parce que dans l'inconscient, malheureusement, on lit souvent les forums sur plein d'articles qui traitent le football. Ah, ils sont jamais testés. Ou quand il y a un positif dans un autre sport, allez voir au football. Je suis sûr, ils sont tous chargés. C'est un sport très contrôlé, le football, très très contrôlé. On le surveille parce qu'on est très performant en France. On a gagné la Coupe du Monde, il y a 5 ans, mais on était encore en finale il y a 6 mois. On est très performant. Malheureusement, on est moins performant en Coupe d'Europe, mais on a quand même on est dans le Big Five, on va dire, des championnats. Il y a quand même pas mal d'argent en jeu. Ça aussi, ça fait partie de la gestion du risque quand on conduit cette étude de risque tous les ans. On regarde un petit peu les gains potentiels, etc., pour les carrières. Edouard, t'as été footballeur. Tu sais bien que le football, c'est presque le sport le plus individuel des sports collectifs.
Ça, c'est vrai.
On n'a pas beaucoup. Enfin, moi, j'ai des anciens j'ai un ancien footballeur professionnel qui est assez proche aujourd'hui. Il me dit, j'ai pas beaucoup de copains entre guillemets de ma carrière professionnelle. C'était des collègues. Donc, quand il te dit ça, il te fait comprendre quand même que c'est d'abord un sport où la concurrence au sein du même club est déjà très importante. Donc, nous, tout ça, on le fait mouliner, et c'est comme ça qu'on dispatche le nombre d'échantillons alloués par sport, et c'est vrai que le football est très contrôlé.
Et si je peux compléter, donc on a eu à peu près 1500 tests l'année dernière, et il faut savoir qu'on est sur la Ligue 1, la Ligue 2, le National,
j'avais demandé ça,
la D1 Arkema, et les équipes de France, féminine, masculine, espoir. Et en fait, techniquement, donc après, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, Edouard, aussi, en parlant de la Champions League, on essaie de faire les choses intelligemment. On a des échanges très réguliers et vraiment très bien avec la FIFA et l'UEFA. Et donc, on va aller vers eux spontanément, au moment où on leur dirait, bon, bah là, il y a un rassemblement à Clairefontaine, on aimerait faire 12 joueurs. Et ben, eux, ils peuvent nous dire, eh ben, parfait, vous faites les 12 là, et nous, on fait les 11 restants à un autre moment. Okay. Ou alors, voir eux qui viennent nous voir et qui nous disent, bon, bah voilà, on manque possiblement un peu de ressources pour faire toutes ces équipes-là, et nous de leur dire, eh ben écoutez, en fait, ils peuvent faire partie de notre programme de test, donc si vous voulez, on les fait à tel moment, on se donne les joueurs qui ont été faits, le type de test, et le but, c'est encore une fois, c'est que ce soit fait intelligemment, régulièrement, et c'est super d'avoir cette relation privilégiée avec des aussi hautes instances qui gèrent des compétitions qui restent à part.
Un joueur positif, il risque quoi ?
Ça dépend de la substance, ça dépend. Enfin voilà, chaque cas est différent. Ça peut aller jusqu'à 4 ans de suspension sur des produits lourds comme tout à l'heure, je parlais des stéroïdes anabolisants. Après, ça peut être moins si, par exemple, c'est une substance, comme on dit, récréative. Si, par exemple, un joueur, et c'est déjà arrivé, sur des niveaux un peu en dessous, un joueur qui se fait choper au cannabis ou un truc comme ça, s'il prouve que c'était pas pour préparer et pour sa compétition, mais c'était juste à titre récréatif, 3 ou 4 jours avant, et qu'en fait, il reste des traces dans ses urines, bon, bah, il peut avoir une suspension amoindrie qui peut aller jusqu'à 3 mois.
Le cannabis ça dope vraiment ou pas?
Ça dépend, il y a des gens qui, pour le coup, ça peut être un décontractant musculaire assez puissant, donc en compétition c'est interdit, hors compétition c'est les joueurs font ce qu'ils veulent entre guillemets, donc c'est pas parfait hein, parce que ça reste quand même interdit par la loi aujourd'hui, mais hors compétition c'est pas recherché dans le menu des analyses au laboratoire.
Et vas-y.
Non, j'ai une autre question. La testostérone, la substance, ça sert à quoi? Ça sert à quoi exactement?
Bah, la testo, c'est une hormone qu'on produit naturellement.
Ouais.
Et donc, c'est pour être, avoir de la force, avoir de la puissance, avoir de l'endurance. Ça joue sur tout ça. Et quand on recherche de la testostérone, nous, au laboratoire antidopage français ou autre, hein, d'ailleurs, il y a plein de laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopage, on va chercher de la testostérone exogène. Ça veut dire que c'est de la testostérone, pour faire simple, importer de l'extérieur, qu'on ne produit pas naturellement. Et c'est là où c'est interdit, et c'est là où il y a potentiellement risque de violation des règles antidopage et suspension.
Et le niveau, là, qui le déclare?
Il n'y a pas de niveau. C'est pas un produit à seuil, la testostérone. Okay. C'est soit c'est exogène, ou soit c'est produit naturellement.
Et pour savoir si c'est exogène, c'est chimiquement qu'ils savent dans...
C'est tout à fait ça.
Okay. Ouais.
Et il y a même, des fois, dans les passeports sanguins qui permettent de noter l'évolution de la présence de certains produits endogènes dans notre corps, qu'on peut voir, si la courbe elle est droite très longtemps et que d'un coup, il y a un énorme pic vers le haut. Alors, il y a des fois où ça s'explique, et là, c'est tout le travail d'après, notamment du service juridique, etc. Mais on a des moyens aujourd'hui de voir quand il y a une anormalité sur des analyses en général.
Et question peut-être bête, mais il n'y a aucun moyen, si le dopage s'améliore, qu'il fasse en sorte que la testostérone exogène puisse modifier, et que ça soit chimiquement on modifie l'écriture de...
Alors là, ça dépasse simplement, mais...
Je demande au Hachette Nebaïri.
Ouais, je pense, ouais. Après, on a le laboratoire français a un pool recherche qui, justement, traite toutes ces questions pour essayer d'améliorer le champ des possibles sur... retrouver une substance tel ou tel sportif. Donc ça, il y a le laboratoire qui travaille là-dessus pour améliorer encore les détections des produits Mais ça sort de notre champ. Nous, une fois que le sportif est pris, entre guillemets, après, ça part soit chez nos juristes qui vont instruire le dossier. Puis après, bon, bah, c'est plus
entre vos mains. Ouais. Et tu parlais de concurrence tout à l'heure dans le vestiaire. Est-ce qu'il peut y avoir des sources au sein même du vestiaire, c'est-à-dire que étant donné qu'ils sont concurrents, est-ce que ça arrive souvent, vous pourrez pas me donner de nom, mais est-ce que ça arrive souvent que, un peu comme les sources du canard enchaîné, que ça soit à l'intérieur même,
un proche du dossier
qui finalement vous envoie une, bah, après c'est à vous d'enquêter, mais qu'on vous informe beaucoup, est-ce qu'il y a beaucoup de...
Alors on a une plateforme aussi sur notre site pour entre guillemets dénoncer un fait de dopage. À ma connaissance, dans le football, c'est très rare. C'est même quasi inexistant, ou un, mais c'était pas très concluant, on va dire, on va rester soft. Mais ouais, bah, on peut tout imaginer, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même aujourd'hui une bulle financière dans le football qui est quand même très importante, et au sein d'un même club, si on a deux pistons gauches qui sont en concurrence, et que potentiellement le piston gauche qui joue, il peut faire une énorme carrière avec... selon le club et selon les performances, il peut, voilà, sa carrière peut être différente du piston gauche qui, pour le coup, lui attend sur le banc. Donc on peut, ouais. Quand je parle de concurrence au sein des mêmes équipes, je pense que bah, Edouard, il en parlerait beaucoup mieux que moi.
Moi, j'ai connu ma carrière, on avait toujours un doc qui nous disait vous prenez aucun médoc à l'extérieur, vous m'appelez à 2h, 3h, 4h du matin si vous voulez. Et voilà. Et donc, moi, pendant toute ma carrière, j'ai pris aucun médoc. Sans l'aval du docteur, bah c'est la base. C'est lui qui était, moi, c'était ma responsabilité. Je voulais pas tomber pour ça. Donc c'est pour ça que je suis relativement surpris de me rendre compte qu'il y a des joueurs dans d'autres clubs qui passent par d'autres docs que le doc du club même.
C'est le gros danger, pas que dans le football, hein, d'ailleurs. C'est le gros danger. On va parler des compléments alimentaires. On va parler de ça. De plus en plus dans le football, on a quand même la sensation, et c'est constaté, hein, que beaucoup de joueurs souhaitent avoir un staff personnel autour d'eux, un prépa physique perso, un kiné perso, un médecin perso, qui du coup va compléter ou pas, hein, l'action du staff du club en question. Et il y a gros danger parce que, comme Edouard il le dit, je pense que le docteur du club, bah, a vu sur quand même pas mal de choses et oriente bien ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
Il est formé par vous, il a tous les docs des clubs, vous faites une formation, vous les rencontrez tous ou pas?
La FFF s'en occupe.
Ouais, la FFF, pas dire.
C'est en fait, il y a des référents antidopage aujourd'hui qui ont été mis en place et qui se sont formés dans beaucoup de fédérations, notamment donc la FFF. Et en fait, la FFF s'occupe de discuter avec les clubs en leur passant les bonnes pratiques, etc., en leur disant où trouver les ressources, notamment de savoir si telle ou telle molécule est aujourd'hui considérée dopante ou non. Donc franchement, ils ont toutes les informations à disposition. Mais en effet, nous, on a discuté encore donc, avec les team managers de Ligue 1, Ligue 2 il y a deux semaines. Et même eux ont peur de cette évolution-là, de nombre de camps privés qui augmentent, où il y en a, bah, voilà, ils partent trois semaines à Malte, et puis en fait, il y a des mecs de 3, 4, 5 championnats différents qui s'entendent très bien, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on n'arrête pas de dire, et ce qu'eux leur disent aussi, c'est que par exemple, le mec, tu sors de ta séance de cardio, c'est super, ça fait des super photos Instagram, il y a quelqu'un qui te file un shaker, ça peut être ton nutritionniste, ça peut être le mec que tu connais, ça peut être l'assistant du nutritionniste, t'en sais rien, tu fais pas gaffe. Et une semaine après, t'es testé et en fait, bah ouais, les 2 kilos que t'as perdu miraculeusement, c'est en fait parce qu'il y avait un produit extrêmement agressif dedans, sauf que tu le sais pas. Et en fait, c'est après ce qui est trouvé dans le corps du sportif et la responsabilité du sportif. Donc en fait, nous, toute cette prévention, l'éducation, la communication qu'on essaie de faire là-dessus, c'est de leur dire à la fin, c'est vous qui payez l'addition. Et on comprend parfaitement la recherche de performance, la recherche de surpasser la concurrence, etc. Mais de dire, en fait, tous les moyens ne sont pas bons.
Donc la défense du joueur, dire, j'étais pas au courant,
c'est mal. À la suite de son plein gré, même ça
si,
existe.
Même s'il n'était pas au courant, comme l'a dit Arwan, la responsabilité objective, ça s'appelle, c'est qu'à la fin, ben, c'est le sportif qui est responsable de ce qu'on a trouvé dans son corps. Donc même s'il n'était pas au courant, même si c'est une contamination, bon, on a retrouvé quelque chose qu'il fallait pas dans son corps. Donc ça va être lui à la fin, à la commission des sanctions, par exemple à la FLD, qui va potentiellement prononcer une sanction contre le sportif.
Et surtout, c'est ce qu'après nos amis juristes appellent le degré de faute. En effet, donc c'est le fait qu'à un moment, bah, par exemple, tu as commandé de la whey en Pologne. le pot il arrive et sur le pot t'as vraiment juste à regarder et à taper le nom des molécules et tu vois qu'il n'y a pas un seul truc qui est bon dedans. Bon bah là c'est la faute elle est 100% sur le sportif ou etc.
En tout cas le risque augmente de 2 fois 5 ou 10 fois.
Et surtout la faute à un moment de dire bon bah là la faute vraiment tu l'avais devant les yeux versus en effet quelqu'un qui à un moment t'a filé une gourde, mais il faut arriver à amener des preuves et c'est toujours là que ça devient une vraie bataille juridique. Et nous on suit ça de loin et aussi parce que c'est un apprentissage pour notre métier. Nous les pré-saisons, je me doute que quand Rémi s'occupait du foot c'était déjà ça, mais les pré-saisons c'est des moments clés pour nous, c'est des moments extrêmement importants. Il y a énormément de choses qui se jouent à ce moment-là, que ce soit pour ceux qui partent, ceux qui arrivent, ceux qui renouvellent, ceux qui veulent passer un step, le minot de 18 ans qui, à un moment, veut se faire sa place dans l'effectif pro. C'est des choses que nous, on regarde. Les sportifs, on les suit pas tous sur Instagram, mais il y a énormément de choses. Et en fait, de dire, bah, là, il y a des trucs qui, des fois, nous interpellent. Mais encore une fois, comme on fait pas de la chasse aux joueurs, quand on a discuté avec les team managers, nous on leur a vraiment dit ça comme ça. On leur a dit, on se doute que vous faites gaffe, mais vraiment le facteur de risque il augmente et il y a des cas récents qui nous font dire que oui, ce risque-là il existe.
Ça existe, ouais.
Alternative Football. Alternative Football.
Quand vous dites le métier que vous faites, c'est où, quand vous rencontrez des gens ou des sportifs, quelle image ils ont les gens de vous ? Enfin, vous dites.
Alors moi, mon parcours c'est particulier, mais on me dit trop bien, souvent, parce que c'est intéressant. C'est intéressant. La matière première, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le sport. Franchement, c'est hyper fun hein, le sport. Nous, amoureux de ça, à longueur de journée, on lit du sport, on regarde du sport, on parle de sport, on débat de sport. Donc c'est quand même assez cool comme métier. Moi, j'ai personnellement pas l'impression de partir au travail quand je laisse mes enfants à l'école le matin. Donc c'est quand même un gros luxe. Après, je sais pas, Erwan, toi, ton expérience, mais de mon entourage proche ou un peu moins proche, c'est des avis quand même plutôt positifs parce que notre mission, je trouve qu'elle est noble, elle est importante. Et honnêtement, c'est assez bien vu, ouais.
Ça, et puis bah, de plus en plus, et notamment avec des initiatives comme ça, et grâce à votre invitation, moi, je sais qu'en discutant avec des proches, en discutant avec des amis, en discutant aux soirées, en fait, il n'y a pas mieux que la pédagogie pour faire comprendre aux gens ce qu'on fait. Et donc, dans un premier abord, en général, les gens savent pas trop à quoi ça correspond. Ils pensent que, bah, soit directement on va prélever, soit ils savent pas trop et ils pensent qu'on est presque un peu un métier policier, quoi. Et en fait, après, au fur et à mesure qu'on explique, il y a pas mieux que les explications dans un domaine comme ça qui est un peu de niche. Et même quand on discute avec des joueurs, justement, qui aujourd'hui ont entendu parler à droite, à gauche, ou alors sont testés et n'ont que le côté contraignant, ce qu'on comprend parfaitement. Avoir juste le côté contraignant d'avoir fini un match, il est 23h et on dit, bah en fait, tu vas passer dans la petite salle à côté, on entend parfaitement que ce soit pas cool. Du coup, quand on peut créer des moments un peu plus hors du cadre, dans leur centre d'entraînement, dans des lieux un peu plus familiers, franchement, 100% du temps, on en arrive à de la compréhension et à un, bah oui. Oui, c'est embêtant, oui, c'est contraignant, mais c'est nécessaire.
C'est important.
Et donc, franchement, non, c'est très plaisant.
Tu vivais comment, toi, Edouard ?
Non, j'en ai fait à Marseille. Ils sont venus à la commanderie, et puis c'était 3 ou 4 joueurs. Et puis, tu fais ce que tu as à faire, tu urines, et puis tu barres. Et puis, bon, comme on était curieux, on posait des questions, on était relativement sereins. Et puis, après, pareil aussi, après les matchs, finale de Coupe de France. Après, quand tu le sais que tu dois. Tu finis ton match, tu sais que tu dois aller au contrôle, donc tu bois un peu plus d'eau ou de bière. Les mecs sont relativement cool, et puis voilà, pour éviter de devoir rester 1h30 parce que t'as pas mis suffisamment de quantité d'urine, et là, t'es obligé de remplir le flacon.
Là, ils sont patients. Ils sont patients en général. Voilà. Mais parce que, encore une fois, comme c'est ni un moment. C'est des moments impressionnants pour nos préleveurs aussi. Je veux dire, c'est des moments importants, c'est des cadres importants.
Surtout dans le football.
Le football, c'est que des gens dont ils ont au moins déjà entendu parler. Donc en effet, si on avait plus qu'avait ton attitude tout le temps, ce serait génial. Parce qu'il y a des fois, ça peut arriver qu'en effet, ça frustre certaines personnes. Si des fois, il y a de la barrière de la langue ou je ne sais quoi. Mais en effet, nous, le but à la fin, c'est que ça se fasse. On a des consignes très précises qui sont données à nos préleveurs. Donc comme tu l'as dit, hors compétition, donc ce serait un moment où on va à la commanderie. Voilà. Ou en compétition, donc dans les travées du vélodrome. Nous, on sait qu'on n'est pas parfait. on sait que le travail ne peut pas être parfait 100% du temps. Et c'est à, on revient, mais on a une vraie transparence avec la LFP et, les, et on espère que les clubs l'ont avec la LFP. S'il y a un souci qui arrive sur le terrain, que ce soit chez nous, un de nos préleveurs qui aurait mal fait, ou à l'inverse, une attitude d'un staff, d'un joueur, d'un club envers un préleveur qui n'est pas correct, on a une vraie discussion avec la LFP et on fait en sorte que ça ne se reproduise pas. Et donc c'est, tout ça, c'est toujours fait en, en bonne intelligence.
La responsabilité aussi, elle est du doc, au niveau du doc, du club aussi. Nous, moi, j'ai eu la chance de connaître à Paris et à Marseille deux docs qui sont Hakim Tchalabi et Christophe Baudot, qui avant chaque saison nous expliquaient un petit peu, voilà, on est en Champions League, il va y avoir des contrôles. Et donc, c'est eux qu'on pouvait déranger à n'importe quelle heure de la nuit comme du jour. Donc, sitôt qu'il y avait un contrôle, on était relativement serein, on savait à quoi s'attendre, on n'était pas surpris non plus.
C'était déjà un éducateur antidopage avant l'heure.
Et quelque part,
le médecin.
Il te rassure. C'est, le doc, c'est celui qui te rassure. Et donc, quand il y a une personne extérieure qui arrive et qui veut te faire un contrôle, tu dis, tu regardes le doc et le doc dit, ok, vas-y. Donc, c'est, non, c'est un truc tout con. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai jamais, moi, j'ai jamais senti de la panique au niveau de mes coéquipiers, quoi. Donc,
ouais, après, on sait que c'est un peu intrusif, hein. Y a pas de problème. C'est, tu rentres dans un champ particulier pour le préleveur quand il va voir le joueur. Mais voilà, c'est notre mission, c'est la mission du préleveur qui est sur le terrain, qui a été missionné par Erwan en l'occurrence, et ça doit se faire comme il a dit, en bonne intelligence. Si toutes les parties, que ce soit les nôtres ou celles des footballeurs et des clubs, travaillent correctement, il n'y a pas de sujet normalement, il n'y a vraiment pas de sujet. Après, ça peut arriver d'être, c'est de l'humain, hein, mal luné, en colère parce qu'on a pris 4-0 à domicile, ça arrive quoi, mais la mission doit se faire.
Tu dis intrusif, mais nous, par exemple, pour tout dire, nous, on est, le vestiaire, c'était sacré. Donc, le vestiaire, il n'y avait personne qui rentrait. C'était toujours soit dans son cabinet ou soit chez les kinés. Donc, le vestiaire restait sacré. Donc, ce n'est pas trop intrusif, tu vois. Enfin,
en plus, là, c'est une volonté de la LFP qu'on comprend tout à fait. Les clubs demandent à ce que ce lieu soit vraiment sacralisé. Voilà. Donc, nous, on a un protocole très précis. Hein, c'est que si un joueur est ciblé à la fin d'un match, il va directement au poste de contrôle sans repasser par la case vestiaire. S'il a besoin de son smartphone, ses tongs, n'importe quoi,
on lui apporte
simplement. Mais on respecte ça. On sait que le vestiaire dans le football, c'est quand même très important pour le coach, les joueurs. Et ce qui s'y passe, ça ne nous regarde pas, entre guillemets.
Et du coup, l'info de quel joueur doit passer à la fin, ils l'ont avant le match. Vous la communiquez au doc. Le préveur va voir le doc, va voir le team manager, comment ça se passe?
Alors, moi je fais toujours les ciblages en amont, donc le tirage au sort, comme ça on dira une bonne fois pour toutes. Le tirage au sort, ça n'existe plus, du tout dans le foot. Moi je fais tous les ciblages.
Et dans c'est le pour foot ça, d'ailleurs.
Et dans plein d'autres sports d'ailleurs. Mais moi je sais qui j'ai envie de tester sur les matchs, où je mets des noms et des noms réserves au cas où, parce qu'on sait qu'on peut se blesser jusqu'à l'échauffement. Et donc, il y a tout un protocole LFP qui a été écrit, notamment en compétition, où en fait le préleveur arrive, se présente, etc., prépare son poste de travail, rencontre le délégué du match, rencontre des gens des équipes, prépare les escortes, donc c'est les personnes qui vont aller vous notifier les sportifs à la fin du match, dans les briefants, parce qu'il y a toute une attitude évidemment à avoir, tout un détachement, une distance, etc. Et en fait, c'est 10 minutes avant la fin du match que le préleveur va communiquer la liste, donc 3 joueurs de chaque équipe en général, au doc. Et les docs, voilà, maintenant, si les mecs sont déjà sur le banc, les prévenir. Et sinon, on les attend à la fin. Mais les équipes ont l'info 10 minutes avant la fin du match.
Et le joueur qui prend le carton rouge aussi, non? Non, ça existe, ça,
ça peut, ou pas? On peut, en fait... On a un protocole là-dessus aussi, où en fait, l'escorte qui devait s'en occuper va le notifier... va l'accompagner, parce qu'on se doute que c'est pas forcément les moments les plus agréables pour un joueur, et le process va se faire possiblement un petit peu en amont, mais on sait que de toute façon tous les autres escortes vont rester attentifs aux autres joueurs, donc oui, ça peut être fait, et en cas de blessure aussi ça peut être fait comme ça.
Et les escortes et le préleveur sont des gens qui travaillent pour la FLD?
Alors non, c'est...
Des escortes viennent de l'extérieur, ouais. Et puis très souvent, voilà.
Bon, par contre, le process de sélection est très long, très exigeant.
Non, c'est des vacataires. Voilà. C'est des vacataires. Les préleveurs, c'est, il faut être éligible. Le code du sport stipule qu'il faut être soit médecin, infirmier, kiné, etc. Donc c'est vraiment un champ particulier pour devenir préleveur antidopage pour la FLD. Et donc, c'est des vacataires. On en a environ 150 partout sur la métropole et même dans les dom-toms. Et c'est un maillage territorial qui fonctionne assez bien. Donc, dès qu'on a une mission, parler du Sud-Ouest tout à l'heure, bon, on a un logiciel qui permet de voir un peu qui est disponible, qui n'est pas dispo, qui est enclin d'aller faire ce test. Et pour les escortes, c'est exactement le même principe. On a des escortes formées par la FLD qui aident justement le préleveur antidopage pendant des missions en compétition ou hors compétition.
Et pour le foot, il y a même tout un process particulier, c'est que les clubs professionnels ont l'obligation d'avoir des chaperons formés. Désigné, donc on sait qui ça va être sur les matchs. Et donc voilà, chaque club professionnel doit fournir des chaperons, pour utiliser l'autre terme. Et voilà, ça c'est le foot notamment qui le nécessite.
Ok, vas-y.
Entre les différents pays, Italie, Angleterre, c'est le même protocole ou ça peut changer?
Le protocole, normalement, c'est quand même sensiblement le même parce que, encore une fois, c'est l'agence mondiale antidopage qui dicte les règles. Okay. Donc on a des standards à respecter. Donc logiquement, si les standards sont respectés, et de toute façon, pour être en collaboration aussi avec les organisations nationales antidopage à côté de chez nous, on va dire, ou un peu plus loin d'ailleurs, on sait que les process sont à peu près les mêmes, donc les façons de travailler sont sensiblement pareilles.
Et est-ce que l'idée d'avoir des chaperons qui sont propres au club, c'est plus simple aussi parce qu'ils sont vis-à-vis des joueurs ou vis-à-vis du staff, ils les connaissent mieux et donc ça se passe mieux? C'était quoi l'idée derrière?
Non, ça peut jouer. Après, c'est aussi parce qu'à un moment, on nous a fait remonter des fois de dire c'est compliqué, évidemment, pour une personne, pour un chaperon et un préleveur, de suivre six joueurs ou de faire en sorte que les six joueurs soient au même endroit au même moment. Un terrain de foot, c'est grand. Et quand un match se termine, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent sur la pelouse et qui partent un peu dans tous les sens. Donc là, l'avantage, c'est que ça nous permet vraiment d'avoir une mission qui est bien faite avec un chaperon qui va notifier et qui suit un joueur. Après, par exemple, une fois qu'ils sont dans la salle d'attente, une fois que tous les joueurs sont dans la salle d'attente, là, on n'a plus besoin que de un ou deux chaperons qui restent avec eux, parce qu'on n'a pas besoin que ça devienne un sauna non plus. Mais par contre, ils vont rester à l'extérieur. Et en effet, si le joueur il dit « je vais aller faire coucou à ma famille à l'intérieur du stade », pas de souci, le chaperon, il va le suivre partout. Mais sauf dans le vestiaire, mais ça, on a défini les règles à côté. Et voilà, ça permet de le faire le plus qualitativement possible et avec un public qui, encore une fois, représente un très fort enjeu en France. C'est un sport où on ne veut pas qu'il se passe quoi que ce soit de mauvais et qu'il puisse détériorer notre relation avec les clubs. Donc c'est une manière, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Rémi, et qui fait qu'on fait très peu de contrôle au domicile chez les footeux, c'est qu'on fait confiance aux clubs, les clubs font intelligemment, ils nous fournissent leur planning de localisation, leur timing, et nous on fait en sorte de faire les choses intelligemment par rapport à eux.
Ok. Et pour répondre donc du coup un petit peu à la question plus en détail, c'est quoi le ratio entre joueurs testés et cas positifs ou cas,
alors,
cas
la, positifs? La moyenne mondiale sur tout sport confondu, c'est environ 0,70%.
Ok.
Donc, de taux de positivité, le football, on est en dessous. Je ne sais plus exactement le chiffre du rapport d'activité de l'année dernière, mais ça doit être 0,40, ouais. Un truc comme ça.
Okay.
Donc, c'est relativement bien. Faible, ouais, c'est très bien. Ça veut dire que le football, y compris les staffs, etc., accompagne bien et éduque bien leurs sportifs. Donc, ça, c'est bien. Après, nous, c'est... Malgré ce chiffre et malgré ces chiffres, nous, notre mission, elle doit continuer. C'est pas parce qu'on trouve pas beaucoup de positifs ou de joueurs qui trichent ou de sportifs qui trichent qu'on doit arrêter notre action. Bien au contraire. Tout à l'heure, Erwan le disait, on a presque un rôle de lobbyiste. Ça veut dire qu'on doit influer sur le comportement des sportifs. Ils doivent se dire, même en grande difficulté sportive, ils doivent se dire, je vais pas passer la ligne rouge parce que je sais que derrière, la FLD travaille fort, travaille bien, et si je fais le con, je vais me faire choper. Donc c'est aussi le but premier du département des contrôles et de la FLD.
0% quoi.
On n'y arrivera jamais.
Zéro, non, mais tant des verres.
On aimerait maintenant, encore une fois, nous on a notre œil professionnel qui ferait que si on était à 0% sur ce volume de tests, voire un volume encore au-dessus, on se dirait que vraiment, en effet, ce serait un sport très propre. Maintenant, moi, j'ai une petite pensée de l'autre côté, en ayant lu des articles pendant des années. Je pense que si on disait au grand public 0% dans le foot, on arriverait à un scepticisme en face. Ouais. On n'est pas content quand il y a des positifs.
Ouais.
On n'est jamais content. À moins que ce soit des tricheurs qu'on avait vraiment envie d'avoir. Mais franchement, dans le foot, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un sport qui continue de faire aussi espérer et aimer les gens. C'est un sport à belles histoires, et donc on veut que ces belles histoires elles soient sur du concret et sur du sport propre.
Voilà, et ça n'empêche pas que notre action doit continuer. On l'a vu malheureusement avec un cas récent. Bah, ça existe, ça peut continuer à exister, même si c'est une contamination, même si c'est un complément alimentaire pollué, voilà, ça reste du dopage. Malheureusement, c'est le mot qui existe pour définir ça. Et donc, nous, on doit continuer à tester le football, mais toutes les disciplines périphériques et du sport français.
Et du coup, comment ça se passe si le protocole est assez clair sur les matchs? Comment ça se passe en dehors des matchs, à l'entraînement ou ou à domicile, même si vous en faites très 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 peu, voire pas?
On en a fait cette année. J'ai la chance d'avoir à en faire au dernier moment. Non, alors tout est inopiné, que ce soit en match ou hors compétition, tout est inopiné. Jamais. Ou alors c'est nous qui allons commencer à nous inquiéter si un club nous dit tiens, on vous attendait. Là franchement, ce serait. Alors soit ils sont très
en avance. Ok, d'accord. Ok.
On serait un peu ça. Et du coup. Non, tout est toujours inopiné. Et en fait, il y a tout un protocole où quand ils arrivent, nos préleveurs se garent tranquillement, sortent leur matériel, vont se présenter au club.
Carte professionnelle, ordre de mission.
Voilà, ils ont un ordre de mission qui est fait par moi en l'occurrence. Ils ont leur carte. Et après, les clubs savent, c'est comme sur des roulettes. On leur trouve un local qui ferme, pas très loin du urinoir. Comme ça, c'est quand même vachement plus pratique. La liste est communiquée au team manager ou à quelqu'un du staff ou au doc, mais ça va être, on veut quand même quelqu'un qui soit entre guillemets haut dans la hiérarchie du staff. Et cette personne-là va aller chercher les sportifs, ou alors si on a pu mettre des chaperons sur la. Là pour le coup, il n'y a pas de chaperon fourni par le club. C'est nous qui décidons d'en mettre, et ou alors les chaperons vont notifier les joueurs. Et en plus, on est toujours dans cet esprit-là qui est de ne pas déranger le fonctionnement du club. Donc le but en général, c'est d'y arriver quand les joueurs arrivent au centre d'entraînement, qu'ils puissent être notifiés, ne pas leur mettre une pression sur le fait qu'il faut que leur contrôle il soit fait en un quart d'heure. Si jamais ils nous disent on n'a pas du tout envie d'uriner, il n'y a pas de souci, la notification elle est signée, et si l'entraînement démarre, le préleveur ou le chaperon va au bord du terrain, garde en vue. Ouais, c'est ça. Les joueurs qui sont concernés. Ils savent, comme l'a dit Edouard, inconsciemment, ils boivent beaucoup, etc. Et puis après, ça se fait. Et puis si un préleveur, il doit arriver à 8h du matin et repartir à 20h, il le fera. Il nous appellera peut-être plusieurs fois sur le chemin. On a eu notamment le cas d'une période qui est assez intéressante pour notre métier, qui est la période du Ramadan, où il nous disait, je suis arrivé à 8h17, il a uriné à 8h11. Et du coup, maintenant, ça va devenir compliqué. On dit, on sait que ça va être compliqué, et parce qu'on respecte toutes les religions, c'est quand il aura besoin, quand il y arrivera, il y arrivera, ouais. Et c'est comme ça. Et à l'inverse, parce que j'ai eu la question aussi de la part des clubs, de nos préleveurs ou de gens, on va pas arrêter de cibler des personnes de confession musulmane pendant le Ramadan, en disant, c'est pas la bonne période. On essaie de le faire intelligemment et de s'y adapter. Mmh. Mais voilà, il n'y a pas de moment où on se relâche, en fait. Dans notre année, il y a des moments plus importants, comme j'ai dit tout à l'heure, en termes de périodicité, mais il n'y a pas de moment où on se dit « Oh, voilà, c'est bon, on peut laisser vivre. » On veut tout le temps être là pour faire ça sérieusement.
Et pourquoi, alors, on parle aussi peu de dopage dans le foot, si pas médiatiquement, mais pourquoi aussi peu dans le foot? Est-ce qu'il y en a moins? Enfin, oui, visiblement, parce que les chiffres prouvent qu'il y en a un peu moins dans le foot, mais est-ce qu'il y en a vraiment moins? Est-ce qu'on en parle moins parce que c'est un sport où en tout cas dans l'imaginaire collectif on se dit ça a moins d'impact sur la performance finale, sur le résultat final, ça a moins d'incidence sur le résultat final que dans le cyclisme, l'athlétisme ou des sports individuels?
Ça c'est vrai, parce qu'en athlétisme t'es tout seul dans un couloir et t'as un chronomètre, donc c'est assez simple de savoir si t'es en forme pas en forme, ou si t'as triché pas triché entre guillemets. Après, dans le football, je reste quand même persuadé que c'est un sport à haute dépense énergétique, hein, quoi qu'on puisse en penser. Si Zidane est aussi performant, c'est que physiquement il était très très fort, et je pense que Zidane avec le physique d'un joueur de district, même s'il était très fort techniquement, au bout du premier quart d'heure de jeu, il s'est pu faire un contrôle et il s'est pu faire une passe. Donc oui, il faut surveiller le football pour le dopage, parce que évidemment que c'est très important. Après, je sais, enfin voilà, je sais même plus.
Pourquoi on en parle? Pourquoi les médias en parlent aussi? Pourquoi on parle aussi peu? On en a parlé récemment avec l'affaire Pogba.
Il y a peu de cas. Comme Erwan l'a dit, c'est sur un temps très court. Il y a eu Maradona en 94. Il y a eu, malheureusement, Pogba ou Sacco à l'époque quand il y avait eu ce fameux cas là. Donc c'est très ponctuellement, on va en parler. C'est pas un sport. Pour le coup, les chiffres le prouvent, encore très touché par le dopage par rapport à d'autres disciplines. Ça n'empêche qu'il faut quand même être là pour justement réguler, pour être présent au cas où il y a une dérive potentiellement de joueurs ou d'un club carrément, quoi, un dopage organisé, ce qui n'existe pas aujourd'hui pour le coup.
Et s'il y a très peu de cas dans le foot pro, même si du coup vous arrêtez le dopage, la surveillance au national, est-ce que vous avez eu vent de dopage dans le foot amateur? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ou est-ce que vous y intéressez pas parce que finalement c'est pas de votre sort et puis c'est le foot amateur? Mais est-ce que
nous on est ouvert à tout? Après, faut que ce soit fait de manière quand même raisonnable. Si on nous dit qu'un club de Détroit de l'Ariège fait des trucs un peu bizarres. J'avoue qu'on va peut-être commencer à se dire « Ok, on va faire gaffe », tant que ça ne devient pas de la santé publique, parce qu'on a aussi une vraie mission de santé publique qui est importante. Nous, comme l'a dit Rémi, les sportifs, on les aime, le sport, on l'aime. Nous, on n'a pas envie que... Enfin, moi, j'ai pas envie que les gens que je regardais jouer depuis tout petit, à 45 ans, ils commencent à développer des maladies horribles, ou alors ils peuvent plus marcher, et à un moment, on se retourne et on dit « Ah bah ouais, ah, si on avait su... »
Suspicion,
si on avait su 15-20 ans avant qu'en fait... tous ces médicaments-là, c'était pas bon, que tout ça, c'était pas bon.
Il va parler d'un championnat, je crois. On y pose la question ou pas?
Non. Vas-y.
Quel championnat? Non, je déconne.
En plus, on n'en a pas spécialement, mais en tout cas, on l'a vu dans d'autres sports. Et c'est encore une fois là-dessus, c'est qu'on on a vu dans d'autres sports des sportifs qui, en fait, 5-10 ans après la fin de leur carrière, sont ravagés, et nous, on ne voudrait pas que ça arrive dans le foot.
En tant que sportif aussi, on voit. On sait, quand on voit des idoles étant jeunes, mais de tout sport, putain, il a vieilli quand même. C'est vrai que le sport use, mais tu dis, mais pas à ce point-là quand même. Et du coup, ça interroge, et puis bon, on se dit, bon, je pense qu'on n'a peut-être pas tous envie de devenir comme ça. Donc voilà, on comprend mieux, on est plus à alerte et on sait plus de choses.
Mais en tout cas, si jamais on avait, à un moment, il y a un renseignement notamment, parce qu'en fait, comme l'a dit Rémi, on a des ressources, franchement, on est assez bien loti, mais on a des ressources limitées. Si un moment on avait un signalement vraiment d'un club de, je sais pas, de N3, N2, où on dit, ils en sont à 5 montées, et à un moment il y a quelqu'un qui nous. Et on avait un renseignement qui nous venait et qui nous disait, là, leur doc, ou alors là, il y a quand même des trucs, on a un département enquête et renseignement qui pourra faire le boulot, nous on pourrait mettre en place des tests, on n'a pas de limite, on peut le faire, si on a les informations pour, on peut le faire.
Et puis notre dispatching stratégique à l'agence, c'est 80% pour le sport de haut niveau et 20% sur le sport infranational, c'est le sport amateur. Donc il y a amateur et amateur, il y a l'amateur qui fait 5 heures au marathon, bon ça ne m'intéresse pas beaucoup, par contre il y a l'amateur qui... joue en N2 par exemple au football et qui potentiellement va jouer en national l'année prochaine et potentiellement va pouvoir jouer en Ligue 2. Bon bah là c'est un amateur plus. On a 20% de nos ressources à louer pour ce niveau. Donc on y va moins, mais ça veut pas dire qu'on n'y va pas du tout.
Et tout à l'heure, Edouard parlait beaucoup des différences entre les pays et les championnats. J'avais l'air de comprendre que finalement, l'organisation internationale avait donné des instructions qui sont les mêmes pour tous.
Des standards.
Standards pour tous. Est-ce que ça a toujours été le cas ou pas? Est-ce que c'est récent, ça?
Je pense que c'est, encore une fois, je ne suis pas l'historien de lutte antidopage, mais je pense que c'est né en même temps que l'agencement de l'antidopage et ils ont essayé de réguler, de standardiser, que ce soit pour les contrôles, que ce soit pour les enquêtes, que ce soit pour la procédure disciplinaire. Ils ont essayé de standardiser, pour tout le monde les mêmes règles. Donc je pense que oui, ça a toujours existé, au moins depuis la création de l'AMA.
Et si les règles sont les mêmes, est-ce qu'en fonction du laboratoire où ça termine, les mailles du filet sont plus ou moins grandes en fonction de Châtenay-Malabry ou d'un autre, autre laboratoire à l'étranger?
Alors, y a, pour être accrédité par l'Agence mondiale antidopage pour les laboratoires, il y a quand même un process assez conséquent pour avoir justement cette accréditation. Donc, ma réponse, ça sera que chaque laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage peut analyser avec les mêmes procédés des substances, des analyses urinaires ou sanguines.
Et toi, on en parlait en antenne, mais tu me disais que tu n'avais jamais été dopé, non. Ça, tu l'as dit, ouais.
Grande révélation.
Et non, je te confirme.
C'est pas maintenant, c'est pas toi que tu devais le dire maintenant, Edouard. Là,
aujourd'hui.
Fais buzzer l'émission, quoi.
Dis-moi.
Non, mais tu étais. Repentance.
Ouais, c'est ça.
Excusez-moi.
Ça fait un super article. Un petit sport buzz.
Dis-moi.
Non, mais aucun cas, t'as jamais été confronté dans toute ta carrière à des cas de dopage ou des
coquilles. Si, je t'ai dit, en 2000, Vincent Guérin. C'est 97-90, c'est ma première saison, et il se fait contrôler positif.
Mais en Grolon, je crois.
On comprend. Enfin, à l'époque, je sais pas ce que c'était, et je le vois. C'était. Il y a pas. Enfin, on était vraiment surpris. Et puis après, il a dû arrêter sa carrière là.
Deux ans, je crois.
Et donc voilà, je sais. Lui aussi, il était surpris. Nous, on était tous surpris. Et puis l'androlone, c'est quoi comme
des anabolisants. Après, qu'à l'époque, il n'y avait pas que Vincent Guérin, je crois. Il y avait pas mal de joueurs. Je crois qu'il y avait Dominique Arribagé qui avait été dans le même cas. Ouais, je crois qu'il y avait eu pas mal de joueurs. Encore une fois, la lutte antidopage de l'époque, moi, je ne la maîtrise pas totalement. Ouais. Donc, je ne vais pas expliquer ce que je ne peux pas expliquer clairement. Mais été condamné, en tout cas.
Ouais. Et en tout cas, nous sommes en jeunes joueurs, ça nous avait choqués. Et on avait peur aussi, parce qu'on s'est dit, mais comment c'est possible? On avait peur pour tout, quoi. Mmh. Donc, tu vois, les bouteilles, ne serait-ce que les bouteilles, décapsulées, non, on va le faire nous-mêmes. C'est une petite parano au départ. Puis après, tu te laisses aller, tu comprends qu'effectivement...
C'est pour ça que le rôle des staffs, t'en parlais tout à l'heure avec le médecin, très important d'être bien encadré, bien éduqué aussi. Je sais pas si ça se fait, ça se faisait à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même des actions de prévention, même dans les centres de formation, pour tout doucement leur expliquer, attention, ça existe. Et c'est bien, parce que dès le plus jeune âge, ils sont un tout petit peu stimulés et éduqués sur le sujet du dopage, et ça va les préparer pour... Parce qu'une carrière, ça va vite. Hein. Dès 15-16 ans, on voit bien qu'il y a des gamins à 16 ans, ils jouent en Ligue 1 aujourd'hui. Donc ça va très vite, et plus on aborde le sujet de manière transparente et simple avec les jeunes footballeurs, plus c'est facile derrière d'appréhender la matière et de se comporter correctement.
Et comme l'a dit Rémi, et comme tu le disais tout à l'heure quand on parlait de cette testostérone qui pourrait devenir endogène, etc., la lutte contre le dopage, c'est aussi une recherche scientifique. Il y a des gens tous les jours à Châtenay-Malabry qui justement recherchent des nouvelles méthodes de détection des produits, etc. Et donc c'est une lutte, c'est une recherche qui ne cesse d'évoluer parce que il y a peut-être des méthodes qui aujourd'hui existent et qui dans 1, 2, 3, 4, 5 ans seront identifiées. C'est bien pour ça qu'il y a des médailles de Pékin 2008 qui sautent encore, de Londres 2012 qui sautent encore. On se dit, bah tiens, 10 ans après, maintenant... Encore une fois, dans l'éthique du sport, perdre une médaille parce qu'on a triché, c'est normal. Et là, nous, on cherche à faire en sorte que s'il y a des méthodes qui devaient être faites, qu'elles soient découvertes au plus vite, pour faire en sorte que ça ne puisse pas arriver et faire partie de toute cette pédagogie, de dire à un moment, c'est dommage que des fois cette peur et cette éducation, elle arrive quand il y a un cas. Parce que nous, ce qu'on aimerait, c'est que tout se fasse avant, c'est qu'en amont, et que ce soit du préventif, mais ces cas, ils existent et on préfère à la rigueur un grand coup de clim et qui dissuade qu'une escalade jusqu'à ce que la pyramide, enfin, on soit en haut de la pyramide, quoi.
Et du coup, vous avez quand même des réunions avec le Châtenay-Malabry pour comprendre, ou parfois ils vous disent, bon, bah là, on voit un nouveau truc, faites attention à ça. Il y a beaucoup d'allers-retours entre eux.
Ouais, complètement. Surtout là, il y a l'approche des Jeux Olympiques qui arrive. On est dans une période assez importante. Et il y a deux semaines à peu près, on était en réunion justement à Châtenay-Malabry. Pas à Châtenay-Malabry, pardon. Ils ont déménagé depuis à Orsay. À Paris-Saclay, ouais. Et donc, ouais, il y a des méthodes de détection qui évoluent. Pour 2024, il y a de nouvelles méthodes sur des substances, etc. Je ne peux pas en dire plus, quoi, mais ça évolue, la recherche progresse et on espère que, comme le disait Erwan, au lieu d'enlever une médaille 10 ans après, j'ai encore une fois mes anciens copains d'athlétisme, Muriel Urtis, pour ne pas la citer, elle a eu je ne sais pas combien de médailles sur tapis vert. Bon, on lui a volé quelque chose, on lui a volé
le moment.
Bah, clairement, on lui a volé une Marseillaise, on lui a l'adrénaline sur c'est terrible, mais c'est pas parfait, mais c'est mieux ça que rien. Donc même si c'est 10 ans après, c'est 10 ans après, le but c'est de raccourcir ce délai où on vole quelque chose aux sportifs propres, justement.
Impeccable, il n'y avait pas de mot de la fin, vous n'avez pas de conclusion, ça vous allait, il n'y a pas de question que vous vouliez poser à Edouard sur l'autre côté.
Au-delà donc de votre initiative et de la chance qu'on a de pouvoir s'exprimer là, on a notre service communication qui développe beaucoup sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook aussi je crois, des messages. Alors vous pourrez voir nos jolies petites frimousses parler de ces messages, mais on essaye de faire en sorte de vraiment de décloisonner l'antidopage, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de compréhension. Et donc voilà, pas hésiter à aller s'informer sur le site. Alors apprendre toutes les molécules interdites par cœur, si on a envie, il n'y a pas de souci. Nous, on ne les connaît pas par cœur. Mais voilà, ces messages-là aussi existent sur d'autres supports. Mais merci beaucoup pour l'opportunité.
Parfait.
Et ben, merci à vous.
Merci à vous.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.